je recrée, on va dire, un nouveau dispositif ici à Die, au Jardin de l'Aube, un jardin que j'appelle le Jardin Bleu. Et c'est donc pour lequel je fais un appel à dons participatif sur cette plateforme Zest, qui est la plateforme qui a été créée par la NEF, donc cette banque coopérative. Enfin, le but de cet appel à dons, c'est d'acheter un certain nombre de végétaux, de plantes mellifères, pour apporter une ressource permanente de nectar aux abeilles. L'idée, c'est planter une grande variété de végétaux pour assurer une floraison permanente entre le printemps et jusqu'à l'automne.
Pour ça, ce sont essentiellement des plantes mellifères que tu implanteras, c'est ça ?
Voilà. Alors les plantes mellifères, ça vient de son... On entend le mot miel hein, là-dedans. Donc ça vient de cette racine, mellie, en grec, qui veut dire tout simplement miel. Et donc les plantes mellifères, on pourrait les appeler aussi les plantes nectarifères. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui font des fleurs, hein, en fait. C'est au moment de la floraison. Dans ces mêmes fleurs, il y a donc une production de nectar suffisamment importante, pour intéresser les abeilles, et donc les abeilles vont butiner ce nectar. Et ce qui a d'assez étonnant chez les abeilles, et c'est relativement unique dans le règne, on va dire dans tout le règne animal, c'est que ce nectar, elles ne le mangent pas directement. Elles sont obligées de l'ingérer dans leur jabot. Et arrivées à la ruche, elles vont le recracher à une autre congénère abeille. Et ce processus d'avalement dans le jabot et de restitution à une autre abeille fait que ce nectar va se charger à chaque fois d'un peu de sucre, va se transformer chimiquement pour arriver à la fin au miel. Et ce miel, il ne va pas être ingéré, enfin il peut être ingéré tout de suite, mais il peut être stocké dans les rayons. Et c'est assez extraordinaire et c'est unique dans le monde donc, animal et végétal et vivant, on va dire. C'est que les abeilles sont les seuls êtres à se nourrir d'un unique aliment qu'elles sont les seules à produire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas... personne peut venir leur apporter un aliment de substitution. Il n'y a aucune substitution que l'on peut faire à cet animal. Elle est la seule à produire le miel et c'est l'unique aliment qu'elle mange. Alors effectivement, les apiculteurs apportent de temps en temps de l'eau sucrée, un candy sucré, mais ça ne sera jamais la richesse, il n'y aura jamais la richesse nutritionnelle, on va dire, qu'il y a dans le miel. Et quoi qu'il en soit, les abeilles aussi ont besoin énormément de pollen, qui sont aussi, qu'elles trouvent effectivement sur les fleurs. Donc cette question de la floraison est centrale. Et elle est centrale, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle est centrale pour les abeilles. Ça ne sert à rien de... Je crois qu'il y a 3 ans, les apiculteurs ont donné autant d'alimentation, autant de sucre à leurs abeilles, en quantité, qu'ils ont récolté de miel. Et tout ça à cause parce que l'offre nectarifère dans le paysage, dans les paysages, ne fait que baisser d'année en année.
Alors ça, ce sont les conséquences peut-être du réchauffement climatique, le fait de cette raréfication.
Malheureusement, ce sont des conséquences multifactorielles, comme on dit. Et la première raison, ça a été ce fameux remembrement, on pourrait peut-être dire démembrement, j'en sais rien, dans les années 50 et 60, où effectivement, là, il y a eu une uniformisation du paysage agricole et une grande destruction, que l'on sait, du bocage, des haies, etc. Donc, et puis, depuis 15 ans, quelque chose comme ça, les fameuses prairies, les fameuses jachères aussi ont été arrêtées. Donc, tout ça a fait que l'offre de nectar aux abeilles, c'est radicalement diminué et mouvement concomitant. Il y a eu un mouvement concomitant des apiculteurs. Ils ne se sont pas rendus compte parce qu'ils faisaient beaucoup des transhumances. Et donc, ils vont de grosses floraisons en grosses floraisons. Voilà. Et donc, le printemps démarre, ils vont dans des vergers fleuris, et après, voilà. Et donc, quelque part, ils ne se sont pas aperçus, pardon, de cet appauvrissement de la biodiversité. Et il a fallu vraiment l'apport des fameux néonicotinoïdes dans les années 2000, où là, ça a été le coup de semonce, où effectivement, il y a eu ces fameux grands effondrements de populations d'abeilles. Et là, à partir du moment où les populations s'effondrent à cause d'une pollution dans la nature, on va dire, et que cette nature n'est même plus pourvoyeuse de la base de l'alimentation dont elles ont besoin, ça fait des causes. Voilà, ça ne fait qu'empirer. La situation ne fait qu'empirer. Voilà.
À côté de ça, toi, tu as décidé donc de constituer un jardin mellifère. Tu peux nous donner un peu ses dimensions? Là, je crois avoir vu un plan, un schéma de ce projet. Quelle est cette superficie de terrain?
Alors, oui, donc, vu que voilà, je suis artiste, la dimension, on va dire, sensible, imaginaire, et on va dire la base à partir de laquelle je pense les choses. On va dire l'imbrication sensible entre les abeilles, le paysage et nos comportements humains, pour moi, ils sont intriqués. Enfin, pas pour moi. Donc, j'ai proportionné le jardin selon les proportions du nombre d'or. Et ce nombre d'or se retrouve, est une constante que l'on retrouve dans le développement végétal, comme dans le développement de nos proportions humaines, comme dans le développement. Voilà. Il y a tout un tas de développements, on va dire, biologiques, qui se font en fonction de ce nombre d'or. Le nombre d'or n'est pas un nombre magique, c'est une conséquence. C'est pas quelque chose de divin, hein. C'est plutôt une conséquence physique d'un certain nombre de contraintes qui font que on en arrive à une constante qui fait que les choses elles grandissent selon cette constante-là du nombre d'or. Et donc cette proportion, donc le nombre d'or, hein, c'est 1,618. C'est un nombre infini, mais on le réduit à 1,118 comme pi qui est 3,14. Donc, les pyramides égyptiennes sont proportionnées selon le nombre d'or. Le Parthénon est proportionné selon le nombre d'or. Plein de cathédrales sont proportionnées selon le nombre d'or. Voilà. Si on regarde une fleur de tournesol, on voit des spirales qui. Le degré de la spirale correspond à un degré du nombre d'or, voilà. Et tout un tas de développement se fait de cette manière-là. Donc, moi, pour établir cette proportion-là, je suis parti d'une unité créée par un grand architecte. Et ce qui m'amuse, c'est que c'est un architecte, on va dire, de l'urbanité, qui est le fameux Le Corbusier. Et Le Corbusier a créé une unité qui s'appelle le modulor. C'est un module. Et le modulor se base sur. Donc voilà, il utilise un homme, enfin, oui, c'est un homme qui mesure 1,81 m. Et à partir de ce 1,81 m, il va tout proportionner, ses chaises, ses tables, ses intérieurs, les appartements, et le bâtiment en entier, selon ce module-là. Et les développements qu'ils font se font toujours selon les proportions du nombre d'or. Et ça, c'est moi, je trouvais ça très intéressant. Et Le Corbusier était lui-même très inspiré par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui est ce bonhomme. On dit toujours un homme, mais ça serait une femme, ça serait aussi bien. Les jambes et les bras écartés, et on voit, c'est à un moment donné, on appelait ça les divines proportions. Donc, c'est vraiment une vieille idée. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de reprendre cette unité, donc du modulor, et d'en faire un élément dans lequel un élément qui va être une cabane. Alors, dans ce grand jardin qui fait donc 40 mètres, 40,54 mètres par 15,48, voilà, il y aura un élément qui sera une cabane qui va mesurer 2,26 m, une cabane cubique qui va mesurer 2,26 m. Donc c'est une cabane cubique. Et à l'intérieur de cette cabane, ça sera un bain d'abeilles. Quand on y rentrera, il y aura une banquette, on pourra s'allonger sur la banquette, et sous la banquette, il n'y aura aucune communication entre l'intérieur de la banquette et évidemment l'intérieur du dehors, mais on va s'allonger sur trois ruches. Évidemment, les abeilles vont sortir de l'extérieur, il n'y aura pas de communication. Donc, quand on va s'allonger sur la ruche, on va être juste imprégné de cette odeur de la ruche et de cette vibration que créent les abeilles. Et il existe d'autres, évidemment, de ce genre d'installations ailleurs. Et apparemment, c'est vraiment des lieux de régénérescence, etc. Et tout l'intérieur de la cabane sera bleu. Voilà. Et quand on va sortir de la cabane va être. On va aller à cette cabane par un chemin qui sera une spirale, enfin un chemin spiralé, et qui va s'inscrire. Et cette spirale s'inscrit dans des proportions de rectangles qui se développent selon le nombre d'or. Voilà.
C'est avant tout un projet artistique ou alors c'est une étude approfondie des techniques de l'apiculture que tu pratiques ?
Ben, moi, ce qui me plaît, c'est justement d'être dans une position où la création artistique va toucher tout un tas de... Enfin, que ce soit la création artistique ou notre capacité sensible à nous mettre en relation avec le vivant et avec d'autres, et notre relation sensible à nous mettre avec l'architecture, avec les hommes et les femmes, avec et avec le vivant en général, fait que l'activité artistique n'a pas de limite. Voilà. Il n'appartient qu'à nous de lui apporter toute de la faire submerger partout où on sent une sensibilité à travailler, quoi, voilà. Et cette relation sensible au monde vivant, c'est un endroit où moi je me sens particulièrement intérieurement productif, quoi, voilà.
Je pense que ce travail que tu exerces autour de l'abeille, c'est aussi beaucoup d'observations sur cet animal. Est-ce que tu as pris en compte, par exemple, leur envol ? Est-ce qu'elles exercent un rituel justement entre le départ ou le retour à la ruche ?
Je dirais pas. L'observation, évidemment, bien sûr, hein, elle est énorme. Enfin, elle est permanente. Et la question que tu me poses, pour moi, je la traduirais plutôt cette question actuelle où on se pose beaucoup de questions sur l'écologie, sur l'environnement, sur la transition écologique, etc. Moi, ma réponse, elle est du côté de l'expérience. Finalement, pour sentir quelque chose, il faut en faire l'expérience. Et il se trouve que cette expérience de l'apiculture, cette expérience de cette relation quotidienne avec les abeilles, m'ont ouvert réellement un espace sensible qu'avant de m'y mettre, je ne soupçonnais pas. Et finalement, la réponse que j'ai à toutes ces questions que l'on se pose, à se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ma réponse, elle est dans l'expérience. Il faut en faire l'expérience pour comprendre de quelle manière, d'un point de vue concret et d'un point de vue pragmatique, on peut apporter une réponse. Et je crois qu'on a tous une réponse à y apporter. À partir du moment où concrètement et de façon pragmatique, on y a une expérience. Et l'expérience, ce n'est pas qu'une expérience, on va dire, récréative. Ce n'est pas qu'une expérience de loisir. Il faut vraiment en faire une expérience de la difficulté. Et la relation à l'abeille, c'est une expérience de la difficulté. Parce que c'est un animal avec lequel on a... Enfin, voilà, c'est un animal qui est difficile à aborder. C'est pas un animal domestique comme un chien ou une vache. Hein. Elle garde cette puissance de protection et aborder difficulté. Et deuxième difficulté, c'est que la question des effondrements, on la vit concrètement. Et d'être à la fois dans cette difficulté actuelle à vivre concrètement de façon pragmatique un effondrement, qui est celui de l'abeille, qui peut nous toucher, qui nous touche de façon affective, hein, dans nos affects profonds, fait que, quelque part, les solutions, elles apparaissent. Et moi, pour moi, cette solution de créer un jardin dans lequel il soit cohérent mon comportement, de quelle manière la relation à l'abeille n'est pas une relation de captation d'une ressource qui est celle du miel une fois par an, et puis le reste du temps, je leur donne de l'eau sucrée et basta, et elles se débrouillent, mais plutôt d'essayer de trouver une manière où chacun va y trouver, comment dire, où la relation, elle n'est pas une captation de l'un sur l'autre, chacun apporte quelque chose. Et donc, à un moment donné, il faut rendre, il faut donner. Et j'ai cette intuition que si on ne donne pas aux abeilles, si ma relation à l'abeille n'est pas dans une forme de don, ça va être très compliqué de lui prendre quelque chose. Et donc, il faut donner du nectar, il faut donner des plantes, il faut donner des fleurs, il faut donner ce genre de choses. Et bon, ma foi...
de plantes qui vont être installées sur ce jardin bleu. Il y en a combien d'espèces différentes?
Alors, le nombre d'espèces, elle est, on va dire, pratiquement infini, parce qu'on va dire le principe du végétal, c'est de se reproduire par la fleur. Donc, en général, toute fleur produit du nectar. Il y en a très, très peu qui ne produisent pas du nectar. Mais en gros, quand même, on va sélectionner un certain nombre de végétaux qui produisent beaucoup de nectar, qui va faire que c'est une réelle ressource pour les plantes. Mais ce qu'il y a d'intéressant... Donc là, pour parler directement à ta question, là, j'en suis à 27 variétés de plantes. Avec un focus, avec une attention particulière pour les plantes estivales. Parce que... Alors là, c'est intéressant parce que le changement climatique ou son dérèglement climatique fait qu'on constate des étés de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Et donc, avec le temps, il se pourrait que nos végétaux actuels sont de moins en moins adaptés à cette... Ou alors qu'ils mettent plus de temps que prévu à s'adapter. Par contre, il existe tout un tas de végétaux qui sont complètement adaptés à ces conditions-là et qui sont donc en fleur l'été. Donc, c'est aussi un travail expérimental qui fait que je vais planter des arbres, des arbustes qui sont en fleurs à cette période. Donc, je peux citer par exemple le sophora du Japon. Il y en a des sophoras ici hein, et qui sont en fleurs, mais pas dans assez grande quantité pour faire une grande réserve une ressource. Il y a aussi le tilleul du Japon. Je dis apparemment parce que je les connais pas, il y en a pas, donc je vais les planter et puis on verra. Enfin, mais bon, les botanistes qui ils sont en fleur à cette période-là, donc tilleul du Japon, tilleul Henri, sophora. Il y a un arbre qui s'appelle l'arbre à miel. Après, il y a des plantes comme le sarrasin sont en fleur au mois d'août, septembre. Le lilas de Californie est en fleur à cette période. La spirée bleue aussi est en fleur à la fin de l'été. L'Eleagnus est en fleur vraiment à la fin de l'été et au printemps. L'arbousier, le savonnier sont des plantes, enfin sont des arbres qui sont en fleur à la fin de l'été. Voilà, l'arbre à miel, c'est le Tetrodium danieli, qui est en fleur. Les troènes sont en fleur en début d'été, en milieu d'été, voilà. Donc c'est vraiment une floraison à laquelle il faut apporter une grande attention et auquel moi je vais essayer d'apporter ma contribution pour intéresser d'autres personnes aussi. Je pense que les plantes, c'est, comment dire, ça se transmet très facilement. Voilà. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que l'on peut avoir des plantes et des belles plantes en fleurs l'été, ou des arbres en fleurs l'été. Et donc, je pense que ça peut être transmissible aussi, cette
histoire. Donc, tu fais un appel aux dons participatifs avec la plateforme Zest. Zest est une plateforme que tu as connue comment ?
Alors, là, c'est rigolo. Je ne sais pas si je dois citer de nom, mais enfin, c'est une amie qui faisait un appel à dons. Et pour le coup, elle n'a pas utilisé cette plateforme, mais je lui ai demandé, si elle avait fait une petite recherche. Puis elle m'a parlé donc de Zest. Et donc, c'est une plateforme donc de la banque coopérative La Nef qui accepte des projets plutôt d'ordre artistique, environnementaux. Et ce que j'ai aimé avec cette plateforme, c'est que j'ai eu un dialogue direct, j'ai eu une discussion avec une personne, c'est-à-dire que c'est pas des machines, c'est pas des ordinateurs, c'est pas des machins qui calculent, c'est vraiment, on a vraiment des gens au bout du fil avec qui on a un échange avec des mails, j'ai signé un vrai contrat, je crois pas que ce soit le cas de beaucoup de plateformes comme ça, avec lesquelles on... Donc il y a vraiment quelque chose de... Je suis vraiment engagé par contrat avec eux, comme quoi l'argent collecté est fait pour ce que je... Pour les choses que je déclare, quoi. D'autant que c'est quand même un projet local, donc il y a beaucoup de contributeurs qui sont... Enfin, la majorité des contributeurs sont locaux. Donc effectivement, si je fais pas... Si je ne réalise pas le projet, que... il y aura un certain... Voilà. Mais c'est ce qui me plaît, quoi. C'est que, comment dire, d'un point de vue local, on a une puissance d'agir et qu'on ne doit pas se... Comment dire ? On doit pouvoir être en capacité de créer des puissances d'agir avec des fonctionnements où on est très concerné localement. Voilà. Je pense que à travailler à l'échelle locale, c'est que les problèmes, on les vit. Alors après, peut-être que mon projet ne va pas intéresser certaines personnes parce que d'autres personnes vivent d'autres problématiques et donc ils vont s'engager sur d'autres problématiques. Mais celle-là, en tout cas, elle peut concerner d'un point de vue local. Un certain nombre de personnes peuvent se sentir concernées, voilà, d'un point de vue local.
Cette mise de départ, elle est de quel enjeu par rapport à ce don, à cette plateforme de don participatif ?
Alors le but est de 3 500 €. Et puis après, il y a trois paliers. Il y a un palier à 1 400, un palier à 2 400 et un palier à 3 500. Voilà. Et le principe de Zest, c'est qu'à partir du moment où on a collecté 1 000 €, en tout de 1 000 €, et ben, on rend l'argent aux contributeurs. Et au-delà, on perçoit, on va dire, les dons. La plateforme se rémunère à 8%. Et donc après, les paliers permettent de donner, on va dire, des objectifs à la fois aux contributeurs. Ils comprennent que comment est structuré le projet, ce qui donne aussi une certaine assurance aussi. Hein. Et ce qui nous, moi en tant que porteur chercher cet appel à don, c'est assez déstressant parce qu'à partir du moment où j'ai atteint 1 000 €, je sais que je vais pouvoir engager la chose, et si j'arrive pas à 3 500 €, je vais pouvoir démarrer l'affaire, quoi. Et ça, c'est par rapport à d'autres plateformes où il faut atteindre soit la somme convenue ou au-dessus. Disons qu'il y a un effet de défi qui est un peu, enfin moi, dans lequel je me sentais pas très très à l'aise, quoi, voilà. Donc le fait qu'il y ait plusieurs paliers, que ces paliers on les explique, que j'espère qu'ils sont cohérents, permet une meilleure appropriation et des personnes qui sont prêtes à mettre quelque chose. Alors je peux dire après les paliers que moi, les contributions que je propose, Donc, je propose que les gens contribuent à 7 euros, 14 euros, 24 et 50, 34 et 54 euros. Voilà. Et à chaque fois, il y a des contreparties. Les contreparties, elles sont très locales parce que soit bon, les premiers, jusqu'à 14 euros, je propose en contrepartie une photographie de plantes mellifères. Mais à partir de 24, à partir de 24 euros, les contreparties, c'est des visites sur place, c'est du miel, ces choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment très, très concret, on va dire. Les gens seront impliqués, eux, et ils verront les résultats de leur contribution, quoi.
Alors, pour l'auditeur qui souhaite participer à cet appel au don, par quels moyens accède-t-il à cette campagne?
Voilà, alors on va sur Internet, on fait plateforme Zest, hein, zest.com, hein, tout bêtement, et on accède donc à la plateforme Zest, et puis on cherche le projet Le Jardin Bleu, et on arrive sur ma page. Ce qui est intéressant avec Zest, c'est qu'on peut payer par chèque aussi. Voilà, ça c'est voilà, des gens qui ne veulent pas passer par la carte bleue et peuvent envoyer un chèque. Alors après, il faut passer par la poste, mettre dans une enveloppe, dans un timbre, aller à la poste, envoyer au service financier de la plateforme. Voilà. Mais bon, je trouve ça quand même assez intéressant, quoi.
Ce projet n'est pas du tout commencé encore, si.
Ou
Il y a déjà
si.
le positionnement du terrain
Oui,
qui est
il y a
pris.
tout, ouais, bien sûr, le
Il y a
terrain est au Jardin de l'Aube.
ce tracé aussi
Le
qui est
tracé,
déjà
on l'a
commencé.
tracé avec un copain il y a 15 jours. Et là, je vais, avec le temps, sur le long temps, je vais le motoculter. Et l'année dernière, je vais commencer à planter un certain nombre de plantes, beaucoup des aromatiques. Donc, tout ce qui est lavande, thym, hysope, sarriette, voilà. Ce sont des classiques, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les plantes ont plusieurs intérêts. Mais l'intérêt mellifère n'est jamais pris en compte, n'est jamais valorisé. Moi, ce que je fais, ma proposition, c'est que je retourne un petit peu les intérêts et je mets l'intérêt mellifère en premier. Mais après, il y a plein d'intérêts. L'intérêt aromatique, l'intérêt médicinal, l'intérêt que c'est un fruit, l'intérêt. Voilà. Après, il y a tout un tas d'intérêts. Et chacun, justement, en mettant en valeur tous ces intérêts-là, fait que les gens peuvent redécouvrir la plante, parce qu'ils n'avaient pas pensé qu'elle était mellifère et qu'elle rentrait dans un dispositif de biodiversité absolument essentiel. Donc, ils peuvent redécouvrir les plantes de cette manière-là. Et en plus, ça peut apporter une puissance, presque une puissance à la plante que les gens n'avaient pas forcément soupçonné.
Alors, en parallèle de ce projet du Jardin Bleu, on connaît aussi ton travail autour de l'apiculture, puisque tu as combien de ruches actuellement?
Bah, l'affaire, elle est très fluctuante. C'est que, bon, j'oscille à une vingtaine de ruches, hein. Mais là, je ne sais pas parce que, avec, bon, on va pas parler du frelon asiatique, mais là, il est arrivé dans le Diwa et on s'est laissé un peu surprendre, quoi. Donc là, il peut y avoir des dégâts et je ne sais pas à combien s'élèvent les dégâts. On va voir un peu au printemps. Là,
Tu n'as pas de poules, d'ailleurs. Les poules, j'ai vu une vidéo où des poules attendaient devant la ruche et elles saisissaient les frelons qui arrivaient.
Ah ben c'est une très bonne nouvelle, si, j'ai des poules. Je
Oui.
n'avais pas pensé à les mettre au milieu des ruches. Pourquoi pas? Mais enfin, oui, pourquoi pas? Après, apparemment, les abeilles du bord de l'Atlantique, de l'Ouest, commenceraient à avoir compris que la température létale du frelon asiatique est plus basse que celle des abeilles. Et en fait, les abeilles attaquent en masse, enserrent un frelon, font monter la température au sein de cette boule, et le frelon meurt avant les abeilles. Et donc, c'est de cette manière-là qu'en Chine, les abeilles se prémunissent contre le frelon. Et apparemment, il y aurait un début d'adaptation des abeilles au frelon. Donc, ça va se faire. Ça va se faire. En attendant, c'est vrai que c'est un peu encore. Il y a encore un stress en plus.
Et
Donc,
puis,
tout ça pour dire que je ne sais pas, ça oscille entre 5, actuellement ça oscille entre 5 et 10, mais dans l'appel à dons, j'achèterai des ruches parce que je n'arrive pas à renouveler mon cheptel. C'est aussi, c'est à la fois un problème technique personnel, hein, peut-être, mais c'est aussi un problème d'adaptation au changement climatique qui fait que ça devient très technique de renouveler son cheptel, parce que les printemps sont tellement imprévisibles que on fait des manipulations, il faut les faire au bon moment, et puis des fois ça marche pas bien. Donc là, j'ai une réelle difficulté à renouveler mon cheptel. Donc dans cet appel à dons, il y aura aussi l'achat de dessins pour régénérer mon cheptel.
Tout ce travail autour de l'abeille donc, est déjà visible ou encore visible sur Internet, sur un blog ou un site consacré à ça ?
Alors, il y a le site Le Goût du Paysage où j'essaie d'y mettre un certain nombre d'informations. Je le crois assez riche. Donc, effectivement, j'ai fait un travail sur les plantes mellifères, un inventaire des plantes mellifères. On peut en voir un certain nombre des aspects. Donc, il y a un onglet paysage mellifère. J'ai écrit aussi, je suis en train d'écrire un manifeste du paysage mellifère. Voilà, donc il y a des extraits de ce manifeste sur la plateforme Le Goût du Paysage, enfin sur le blog Le Goût du Paysage. Il y a un onglet Le Jardin Bleu. Et puis il y a aussi un copain photographe, Antoine Picard, qui est venu trois fois déjà faire des photos de ce chantier et que je mets en ligne aussi. Donc il y a des images photographiques d'un photographe auteur. Donc je le crois assez complet. Et avec la plateforme Zest, j'ai aussi une page Facebook que j'alimente de façon très régulièrement. C'est pratiquement tous les jours que je mets de nouvelles informations pour justement expliquer ce qu'on a expliqué là en d'une demi-heure, trois quarts d'heure, l'expliquer de façon diluée et un peu quotidienne sur Facebook, parce que je ne peux pas mettre un gros truc, mais je lance des petites infos sur Facebook. Alors il y a une page qui s'appelle Le Jardin Bleu, et sinon, mon nom, c'est Olivier de Sépibus, que j'ai augmenté du nom de ma maman, qui s'appelle Thomaïdis. Donc c'est Olivier de Sépibus, Thomaïdis.
Eh bien, Olivier, merci d'être venu nous parler donc de ce Jardin Bleu qui est en cours de financement participatif grâce à la plateforme Zest. Et voilà, un prochain temps pour nous parler des abeilles et du miel aussi.
Ben, je reviendrai avec plaisir, en tout cas.
Eh bien, je te souhaite une bonne soirée.
Merci, à bientôt.
1 Terre View. Okay, the bird.